il y a eu l'exaltation.
Les sénateurs argentins viennent de voter la légalisation de l'avortement, soulagement après 15 années de lutte.
Et l'indignation.
Le scandale des maisons de retraite n'en finit pas.
Les bouleversements.
Est-ce que vous m'entendez là? Vous m'entendez? En fait, je vous entends, mais je vous vois pas, docteur.
Et les couacs.
Est-ce que vous avez acheté des masques pour vous et vos enfants?
Ah non, pas du tout.
Non, mais vous rigolez, mais là, la question, c'est de savoir est-ce qu'on va acheter des masques ou pas?
La colère. Mais aussi l'espoir.
La naissance d'un bébé à la suite d'une grève d'utérus. Son père a encore du mal à réaliser.
Ces dernières années, la vraie vie des soignants-soignantes a dépassé la fiction de n'importe quelle série médicale à succès. Le vieux monde de la santé craque de partout. Dans les cœurs de nombreux soignants et soignantes qui ont choisi leur métier par passion, par conviction, il y a des questions.
Est-il encore possible de travailler sans trahir ses valeurs, son éthique? Comment protéger sa flamme? Comment ne laisser personne au bord du chemin?
Dans nos cœurs, il y a aussi eu des secousses telluriques, des glissements. Pour beaucoup d'entre nous, le rapport à notre corps, à notre intime, à l'autre, a été profondément bouleversé. Il a été discuté publiquement, débattu, il a fait l'objet de manifestations, de procès médiatiques. Pour beaucoup d'entre nous, il est devenu insupportable de nous sentir dépossédés de notre corps, même dans un contexte médical. Beaucoup d'entre nous en ont assez des relations verticales, y compris entre médecins et patients. Maintenant, le savoir du vécu souhaite dialoguer avec le savoir scientifique. Et s'il était temps d'imaginer un nouveau serment? Un serment qui viendrait compléter humblement le serment d'Hippocrate en prenant sa source dans les questionnements que nous avons ici et maintenant. Le serment d'Augusta. Prologue.
Je suis Emmanuel Flamand-Rose et depuis que je suis petit, je rêve de devenir neurologue, de soigner des gens pour m'occuper d'eux et de comprendre comment marche le cerveau. Et puis, ça s'est bien passé. Je suis devenu neurologue ici, à la Pitié-Salpêtrière, et j'enseigne en même temps à la faculté de médecine de Sorbonne Université.
Je suis Olympe de Gé, réalisatrice et autrice, féministe engagée. Je suis patiente. Je suis aussi la fille, la petite fille, la sœur, l'amie de patients et de patientes. Et je dois dire que parmi les moments les plus intenses émotionnellement de ma vie, il y en a un grand nombre d'entre eux qui avaient pour cadre l'hôpital.
On connaît tous l'histoire du Petit Prince. C'est l'histoire d'un extraterrestre avec une tête ronde, des joues toutes rouges et une chemise verte qui demande à un aviateur perdu dans le désert de lui faire un dessin. C'est vraiment une histoire improbable. Et pourtant, c'est l'histoire qui est la plus traduite dans le monde. Le Petit Prince, en fait, c'est un observateur privilégié. C'est le candide parfait. Il tire avantage de son ignorance de notre monde pour le questionner avec une brutalité tendre, sans aucune concession, et aussi une immense curiosité. Et pour moi, Olympe, c'est ce témoin lumineux qui vient examiner notre monde de la santé.
Et c'est comme ça qu'est né le serment d'Augusta. Pourquoi un serment ? pour proposer de nouvelles pistes de réflexion déontologique. Ce serment, il s'adresse aux soignants et soignantes en devenir, il s'adresse à tout et à toutes les professionnelles de santé, et il s'adresse à nous, qui faisons appel au système de soins. Parce que c'est en réfléchissant ensemble qu'on s'assurera que nos relations de soins reposent sur des bases positives. C'est en dialoguant qu'on imaginera un monde de la santé plus inclusif et plus safe. C'est en faisant bouger ce qu'on peut faire bouger nous, à l'échelle individuelle, qu'on retrouvera de l'enthousiasme, qu'on retrouvera du sens.
Pourquoi le serment d'Augusta ? C'est pour rendre hommage à Augusta Klumke, qui est une pionnière unique, à la fois dans le domaine de la neurologie, mais aussi dans celui du féminisme incarné. Augusta, c'est la première femme qui, grâce à sa détermination, a pu être nommée interne des hôpitaux de Paris, et c'était en 1886, exactement ici, à la Salpêtrière, où je travaille et où j'enseigne.
La vie d'Augusta est passionnante, et si vous voulez écouter son portrait, on vous met le lien sur la page de l'épisode. Mais pour le moment, place au serment d'Augusta. Bonne écoute. Si vous avez envie de réagir, que vous soyez patient, patiente ou futur professionnel de santé, écrivez-nous sur leserment-d'augusta@binge.audio. Le Serment d'Augusta est un podcast de Binge Audio, un hors-série Programme B en partenariat avec la Faculté de médecine Sorbonne Université, écrit par Olympe Degey et Emmanuel Flamand-Rose, avec la participation de Rosaine Le Saint, réalisé par Elisa Grenet et produit par Anaïs Daïka. En supervision, David Carzon, directeur de la rédaction de Binge Audio.
Produit par Binge Audio.
À l'origine de cet épisode, un stage d'observation au SAMU d'Avicenne, à Bobigny, en Seine-Saint-Denis. Ce soir-là, c'est ma première nuit. J'accompagne l'équipe du SMUR. On est en février 2021, en pleine troisième vague de Covid. Beaucoup de nos sorties consistent à transférer des patients patientes depuis les urgences d'un hôpital vers la réa d'un autre hôpital, ou encore de réa à réa spécialisée. Nous sommes à l'hôpital Jean Verdier, à Bondy. Nous venons chercher une personne que l'on doit emmener à Cochin, où viennent juste de s'ouvrir une dizaine de nouvelles places en réa. Nous entrons dans le box des urgences. Une femme nous attend, elle est consciente, elle est demi-assise. Elle a 45 ou 50 ans, les cheveux courts et blonds, des grands yeux affolés au-dessus de son masque à oxygène, avec l'O2 poussé à fond. Elle est petite et très corpulente. C'est donc une personne particulièrement vulnérable au Covid.
Bonsoir.
Bonsoir.
On vous amène une femme de 45 ans. Elle a appelé parce qu'elle avait une détresse respiratoire. On l'a retrouvée chez elle, on l'a mise sous 10 litres d'oxygène. Mais c'est possible que vous ayez besoin de l'intuber dans les heures à venir.
Ok, je vous laisse voir avec ma collègue parce que je pense qu'on va devoir la transférer.
D'accord, ok.
Bonsoir. Bonsoir. Effectivement, il n'y a plus de place, il va falloir la transférer à Cochin. Thomas, okay. Est-ce que tu peux te charger de la changer de brancard ?
Par contre, on va changer de brancard toute seule. Moi, je porte pas ça.
Je porte pas ça. Je sais que je viens d'assister à quelque chose de très ordinaire. Parce que j'ai déjà entendu sur les réseaux sociaux ou dans les médias les activistes Gabriel Dédier, Daria Marx ou Pelfine de Corcoul témoigner de la grossophobie dans le milieu médical.
Par exemple, si aujourd'hui je me casse la jambe, si je vais à l'hôpital, il y a un seul fauteuil roulant à ma taille. Si on est deux gros à se casser la jambe, il y en a un qui va attendre. Aujourd'hui, l'obésité est mal prise en charge en France. On tape sur les gros au lieu de taper sur la maladie obésité. Et on a besoin de moyens pour la recherche sur l'obésité et pour soigner les obèses.
Des gros, aujourd'hui, on n'a plus qu'une seule solution à te proposer, c'est la chirurgie bariatrique.
En figeant la grosseur comme une épidémie qu'il faut enrayer, on refuse de complexifier le rapport entre poids et santé.
Aujourd'hui, non, c'est évident que si un médecin me prescrit un régime, je ne vais plus voir ce médecin. Je ne comprends pas qu'on continue à les prescrire, en fait, parce qu'on sait que le taux d'échec d'un régime, c'est 95%.
Grossophobie médicale, je cherche des témoignages de personnes concernées. Si vous avez envie de partager votre expérience, j'ai fait un appel à témoignages sur Instagram. Et là, des dizaines d'autres voix qui s'élèvent dans mes messages privés et qui, elles aussi, témoigne de propos déshumanisants, violents, d'erreurs de diagnostic.
Il va vraiment falloir songer à faire quelque chose pour votre poids, parce que là, dans 20 ans, vous êtes cardiaque, diabétique ou morte.
Le serment d'Augusta, épisode 1. Je penserai les corps en dehors de la norme.
On m'a fait mettre en sous-vêtement et la médecin a en premier lieu identifié tous les signes d'obésité chronique sur mon corps. Je me suis sentie comme un morceau de viande.
Un raccourci assez fréquent, c'est de considérer que les hommes obèses ont un taux de testostérone plus bas que la moyenne et que ça explique aussi le manque de courage pour faire du sport.
Madame, vous avez 50 fois plus de chances de mourir que quelqu'un d'autre pendant l'anesthésie. Et moi, ça m'a fait très fortement flipper, vraiment angoissée. Jusqu'à l'opération, j'ai vraiment angoissé en me disant « Oh là là, mais si je meurs et tout, il faut tout que je prépare pour mes chats et tout. »
Il y a 2 semaines, j'ai eu une première consultation au privé pour subir la chirurgie bariatrique, chose qui n'était vraiment pas quelque chose que je voulais faire. Mais j'ai tellement peur un jour d'avoir un cancer ou d'avoir une maladie chronique qui ne soit pas diagnostiquée parce qu'on me regarde et qu'on pense que tout est à cause de mon poids. Fait que je vais aller subir une chirurgie qui ne me tente pas, parce que j'ai peur que mes futurs soignants me tuent.
Quand j'ai décidé de réaliser des films, je voulais dénoncer la standardisation des corps qu'on nous présente comme désirables. Au cinéma, dans les magazines, dans la pub, il y a un corps étalon. Là, ce que je découvre pendant cette nuit au SAMU, c'est que comme dans le monde des images, il existe un corps standard dans le monde du soin. Ce corps standard, c'est un corps blanc, c'est un corps masculin, c'est un corps neurotypique, c'est un corps jeune, c'est un corps cisgenre, c'est un corps mince. Dans son ouvrage « Grossophobie, sociologie d'une discrimination invisible », la chercheuse Solène Karoff explique que la grosseur est associée depuis des siècles à la paresse, la bêtise, la compulsivité ou le manque de volonté. Et aujourd'hui, on en est où ? Toujours au même point. Solène Karoff cite 2 sources pour le prouver. La première, en mars 2020, pour la Journée mondiale contre l'obésité, l'association française La Ligue contre l'obésité commande un sondage. Les résultats ? 67% des sondés pensent que perdre du poids est d'abord une question de volonté. Et 62% des sondés affirment que l'obésité est avant tout due à une mauvaise alimentation et à un manque d'activité physique. Seconde source, on est toujours en 2020, mais hors de France, où ça ne se passe pas beaucoup mieux. C'est cette fois non pas l'opinion publique, mais le ministère de la Santé britannique lui-même qui culpabilise les personnes grosses. Un rapport affirme que les personnes en surcharge pondérale doivent perdre du poids pour réduire la pression exercée sur les médecins et les infirmières du public et libérer leur temps afin qu'ils puissent traiter d'autres patients malades et vulnérables. Un peu comme si les personnes grosses gardaient délibérément leurs kilos en trop pour peser sur le système de santé. Encore et toujours en 2020, et là c'est plus Solène Karoff que je cite, c'est notre mémoire collective que je convoque, est-ce que vous vous rappelez la façon dont on a brandi des images de corps gros sur Internet pendant le premier confinement ? On a agité des avant-après sur les réseaux sociaux, comme ce qui pouvait nous arriver de plus terrible pendant la pandémie était de grossir. La rhétorique de ces mêmes, être inactif-inactive va vous rendre gros-grosse. Parce qu'on est persuadé que les gros et les grosses sont inactifs-inactives. Un préjugé qui revient à l'époque dans un contexte sanitaire où il n'y a pas du tout de quoi rire pour les personnes concernées. La grande majorité des patients et des patientes de moins de 50 ans, hospitalisés en réanimation à cause du Covid, sont obèses. Et pour cause. L'obésité est reconnue dès le début de la pandémie comme le second facteur de risque le plus important, après l'âge. Pourtant, les personnes obèses entre 18 et 49 ans n'ont eu accès à la vaccination que le 1er mai 2021, après la troisième vague de Covid-19. Injuste, oui, mais aussi tristement banal. Avoir un corps qui ne rentre pas dans la norme, c'est être moins bien pris en soin. Car dans le milieu médical, tout est pensé pour des corps standards. Les personnes obèses, c'est-à-dire avec un IMC de plus de 30, représentent 17,4% des femmes et 16,8% des hommes en France. Mais le matériel médical qui leur est dédié est absent ou trop rare. Résultat, des salles d'attente avec des accoudoirs sur chaque chaise où il leur est impossible de s'asseoir, des tables d'examen trop étroites, des brassards de prise de tension trop petits, des aiguilles pas assez longues pour les gaz du sang, et en radiographie, des IRM qui ne sont pas conçus pour les corps de plus de 150 kg. L'orifice de la machine ne fait que 135 cm de diamètre. Jusqu'à il y a peu de temps, on envoyait les personnes dont le corps ne correspondait pas à ces chiffres vers les écoles vétérinaires. Heureusement, des établissements de santé commencent à investir dans les IRM à ciel ouvert. Pour le moment, il y en a 3 en Ile-de-France.
Raconter l'histoire de mon corps, c'est vous parler de ma honte. Ma honte devant mon apparence, ma faiblesse, devant le fait qu'il soit en mon pouvoir de changer mon corps et de ne pourtant pas le changer, année après année. La honte est une chose difficile. Il est certain que les gens essayent de me faire honte parce que je suis grosse. Quand je passe dans la rue, les hommes se penchent à la portière de leur voiture et me lancent des obscénités sur mon corps, sur la façon dont ils le voient. Ils me lancent à quel point ça les gêne que je ne corresponde pas à leur esthétique, à leur goût et à leur désir. J'essaye de ne pas les prendre au sérieux, parce que ce qu'ils disent vraiment, c'est « Vous ne m'attirez pas, je ne veux pas vous baiser, et cela perturbe ma compréhension de la masculinité, de mes droits et de ma place dans le monde. Ce n'est pas mon boulot de faire en sorte que mon corps leur plaise. Lorsque les gens essayent de me faire honte parce que je suis grosse, j'éprouve de la rage, je deviens têtue. Je veux me rendre encore plus grosse pour les contrarier, même si la seule que ça va contrarier, c'est moi. »
Vous venez d'entendre Roxane Gay, autrice américaine, noire, en situation d'obésité massive. Dans Hunger, elle retrace l'histoire de son corps indocile, subversif. Elle décrit en creux comment la norme de minceur pèse plus particulièrement sur les femmes.
Depuis l'après-guerre, les femmes en particulier ont consommé énormément de dérivés d'amphétamines. C'est parce que la totalité des pubs, des images de la beauté féminine, notamment depuis l'après-guerre, repose sur l'idée qu'une femme belle est une femme mince, même très mince. Et pour y arriver, comme c'est presque impossible parfois, et parce que d'abord d'un point de vue constitutionnel, on n'est pas toujours programmé pour être mince, il y a des raisons génétiques, hein. Ensuite, parce que la transformation de la nourriture fait que de plus en plus la nourriture transformée expose au surpoids. Donc il y a des tas de raisons qui font que c'est un objectif utopique pour beaucoup de femmes. Et donc elles font appel à des coupe-faims. Moi, je suis le docteur Irène Frachon et je suis pneumologue au CHU de Brest. Je suis la lanceuse d'alerte du Mediator, puisque maintenant c'est le terme adéquat. C'est-à-dire qu'en tant que médecin, j'ai fait interdire le Mediator en 2009 et qu'ensuite j'ai dénoncé ce que je pensais être un scandale. Le Mediator a été massivement consommé exclusivement pour ses propriétés coupe-faim. Non seulement les médecins partagent ce regard très critique à l'égard du surpoids, considérant que le surpoids ne correspond pas à un idéal de séduction et de minceur et même de bonne santé. Et la deuxième chose, c'est que l'idée que d'être grosse vous rend responsable de tous vos maux, c'est puissamment développé, de manière disproportionnée par rapport au poids réel de l'obésité comme facteur de risque de maladie. Bon, il ne s'agit pas de dire que l'obésité ne pose pas de problème de santé. Il y a des problèmes de santé qui sont bien répertoriés, qui sont le retentissement sur les articulations, qui sont un facteur de risque effectivement cardiaque, enfin cardiovasculaire, mais qui sont le fait qu'on peut faire du diabète plus facilement quand on est en surpoids, qu'on est plus essoufflé. Mais il y a des personnes en surpoids ou obèses qui se portent comme un charme. Les médecins, trouvant que les femmes qui les consultaient étaient trop grosses, leur disaient qu'il fallait faire des régimes. les régimes, ça ne marche pas quand on est en surpoids. Donc, les femmes ne maigrissaient pas ou elles maigrissaient en yo-yo. Donc, deuxième étape, c'était de leur prescrire un coupe-faim. Et comme les coupe-faims ont été interdits au fil des années parce qu'ils étaient dangereux, il en restait un, antidiabétique, mais réputé pour faire maigrir, le Mediator, sans trop s'interroger de ce que cachait cette notion de coupe-faim. Les médecins ont prescrit massivement du Mediator pour maigrir à des millions de femmes et d'hommes, mais surtout des femmes, parce qu'ils estimaient qu'elles étaient trop grosses, point, trop grosses, voilà. Ensuite, ces femmes, sous Mediator, certaines ont commencé à dire qu'elles n'allaient pas bien, qu'elles allaient de moins en moins bien, qu'elles étaient essoufflées. Bah oui, elles étaient essoufflées d'être grosses, maigrissées. On va voir le cardiologue, alors là c'est encore pire, le cardiologue, comme c'est un facteur de risque cardiovasculaire, etc. Ces femmes, en réalité, sous Mediator, étaient essoufflées parce que leur cœur était en train de flancher et que finalement personne ne s'en apercevait. Erreur de diagnostic. Et donc, pas de dépistage et pas de prise de conscience que le Mediator était en fait la cause de ces essoufflements. Et on finit par découvrir qu'effectivement, au bord de la mort, au bord du précipice, elles ont bien des valves cardiaques très malades. On les opère, opération très risquée chez ces femmes très grosses. On leur met, on ampute le cœur des valves cardiaques, on met des prothèses mécaniques. Ce sont des opérations extrêmement mutilantes, dont le cœur ne se remet pas bien. Ce sont des opérations palliatives qui ont des complications majeures. Et donc, on essaye de les faire bouger, de les réadapter. Et la réadaptation est difficile. Et elles vont se faire engueuler en réadaptation partout. Bougez-vous donc, vous êtes trop grosse, vous devriez maigrir. Et si vous supportez mal ces opérations, c'est parce que vous êtes trop grosse. Qu'effectivement, la cicatrice est douloureuse, ça s'est mal passé. Mais aussi, avec ce surpoids-là, ma pauvre dame, faut pas vous étonner. En réalité, ces femmes, on les a fait pédaler en mesurant ce qui se passait dans leur cœur par un cathétérisme. Et on s'est aperçu que dès qu'elles commençaient à pédaler, le cœur se mettait à genoux. Le cœur se mettait à genoux. Alors qu'au repos, il a l'air d'être battre à peu près correctement. Effectivement, elles peuvent pas monter un étage sans fondre en larmes parce que le cœur se met à genoux et que ça n'est pas reconnu par l'expertise cardiologique.
Le Mediator a causé le décès d'entre 500 et 1500 personnes. Dans cette affaire, il y a de la grossophobie de A à Z. Personne n'est épargné, ni les patientes, qui ont intériorisé le stigmate de leur poids et qui souhaitent maigrir pour faire rentrer leur corps dans la norme, ni les médecins, qui ont prescrit un médicament en dehors de son autorisation de mise sur le marché et ont fait passer en priorité la perte de poids plutôt que la bonne santé générale de leurs patientes, ni les cardiologues et les experts qui sont restés aveuglés par le surpoids et ont fait des erreurs de diagnostic. La grossophobie est extraordinairement répandue, on la décèle dès le plus jeune âge. Presque 50% des filles de 3 à 6 ans ont peur d'être grosses. Il y a donc fort à parier que vous et moi, on est aussi un biais grossophobe. Pour ma part, j'en ai un, c'est certain. Je me rappelle avoir souhaité ne pas être assise à côté de cette personne corpulente dans l'avion. Je me rappelle m'être moquée de ma voisine très ronde qui vivait dans une petite chambre de bonne. Je me rappelle avoir adoré Wally. Je me rappelle avoir ajouté gros avant con, comme si c'était pire. Et puis j'ai aussi fait preuve de grossophobie vis-à-vis de moi-même. Alors que mon corps est dans la norme, je m'en suis beaucoup voulu quand je prenais 5, 10 kilos. J'ai fait des régimes drastiques, je me suis détestée. Et vous ? Et j'ai envie de poser cette question tout spécialement aux futurs soignants et soignantes. Avez-vous eu ou avez-vous un biais grossophobe ? Martin Vinclair, médecin et écrivain, raconte qu'un jour, dans une fac de médecine parisienne, il a commencé un cours par la phrase suivante.
Bon, je pense qu'ici, nous sommes tous d'accord. Le boulot d'un médecin ne consiste pas à dire aux gens comment mener leur vie.
Il se trouvait face à des internes en médecine générale. La majorité d'entre eux a été scandalisée. L'un d'eux a même lancé.
Alors du coup, si je comprends bien, si on se trouve face à un type qui pèse 120 kilos, qui fume comme un pompier, qui baise n'importe comment, qui boit comme un trou, qui a un cholestérol, une tension et une glycémie au plafond, on lui dit rien, c'est ça ?
Martin a répondu.
Il sait qu'il pèse 120 kilos. Son entourage lui répète probablement 10 fois par jour qu'il boit trop et qu'il fume comme un pompier. Son cholestérol n'a aucune importance et la manière dont il baisse ne vous regarde pas. S'il ne vient pas vous voir expressément pour l'un de ses problèmes, vous n'avez rien à lui dire. Et vous n'avez surtout pas à le harceler. Avant de lui donner votre avis sur ce que sont ses problèmes, écoutez-le pour avoir le sien.
Une étude réalisée à l'Université de Floride en 2013 vient corroborer ce que dit Martin Winkler. Elle démontre que pratiquer la culpabilisation au sujet du poids n'est pas efficace. A contrario, ça entretient des comportements alimentaires délétères, favorise l'évitement de l'exercice physique et la rupture du parcours de soins. Alors comment on se positionne, quand on est soignant ou soignante, vis-à-vis d'une personne en situation d'obésité? Eh ben, si on écoutait les patients et les patientes, pour commencer.
Je m'appelle Lucille, j'ai 26 ans. Je suis étudiante pour devenir éducatrice de jeunes enfants, actuellement en stage dans un hôpital pédiatrique. J'ai fini en fait aux urgences ophtalmo après un rendez-vous d'ophtalmo normal où elle a vu quelque chose qu'elle trouvait bizarre. Et elle m'a dit, en sortant demain matin, ce serait bien d'aller aux urgences. Donc je me suis retrouvée aux urgences sans vraiment savoir quel était le problème. Et en fait, ils m'ont fait des tests et j'avais donc un œdème papillaire, donc un œdème du nerf optique derrière l'œil, qui est un signe, qui là en tout cas était un signe d'hypertension intracrânienne. J'ai donc été hospitalisée et j'avais un rendez-vous du coup un mois après pour vérifier que l'œdème était moins présent, notamment. Et en fait, je suis arrivée. Et la première chose que l'interne m'a dit, c'est « Est-ce que vous avez perdu du poids depuis l'hospitalisation ?» Donc l'hospitalisation, c'était un mois avant. Donc je me dis « Ok, un mois, c'est quand même rapide pour demander de perdre du poids. » D'autant plus que j'ai souffert longtemps, enfin je souffre toujours, de troubles alimentaires. Depuis, je pense, une dizaine d'années, j'ai passé 2 ans en clinique pour les troubles alimentaires. Ils le savaient parce que je leur avais dit. Parce que normalement, ça fait un peu garde-fou sur ces problématiques-là, de le dire. Pas toujours. Donc, c'était écrit dans mon dossier. Et donc, je lui dis, non, j'ai pas perdu de poids. Et ensuite, je vois la médecin, enfin celle qui est au-dessus de l'interne, qui me dit, oui, non, il faut perdre du poids. Il faut perdre du poids, point. Et en fait, du coup... Forcément, avec les troubles alimentaires, le poids, c'est quand même une question qui est délicate pour moi. Et donc, du coup, j'ai fait une crise d'angoisse, j'ai dissocié. Enfin, j'étais complètement un peu bouleversée par ce truc-là où, en fait, on me disait, ça va pas vraiment mieux. Mais en fait, tout ce qu'on peut vous proposer, c'est perdre du poids, point. Sans le comment, sans le pourquoi. Enfin, pas vraiment sans le pourquoi, mais sans le comment, sans le combien de temps, combien de kilos. Et donc, du coup, j'ai senti que ça avait un peu rouvert des brèches, on va dire, que j'avais réussi à fermer avec notamment le suivi psy. Et donc, du coup, en fait, je suis sortie de là en colère et blessée.
Je m'appelle Sybille. Voilà, j'ai un long parcours médical. J'ai pas mal de douleurs sur pas mal de plans. Donc, j'ai vu beaucoup de médecins. Et donc, j'ai beaucoup de choses à dire sur la grossophobie. Je pense que quand on est gros, on a bien conscience du problème depuis un bon bout de temps, puisque le quotidien nous le rappelle en permanence qu'on est gros. Je pense que c'est important de le prendre en compte dans le rendez-vous. Mais en même temps, quand on est obèse, même si, par exemple, je sais pas, je perdais 10 kilos par an et c'est déjà pas mal, je mettrais 3 ou 4 ans à arriver à un poids relativement normal. Donc, ça voudrait dire que je passe 3 ou 4 ans à avoir mal. Et en plus, c'est terrible parce qu'on a l'impression de mériter ces douleurs. Parce qu'on se dit, c'est ma faute, c'est moi qui sais pas me contrôler. Moi, j'ai longtemps ignoré l'origine de mes troubles alimentaires. Et je n'ai compris, je me suis souvenue que assez récemment, quelle en était l'origine, qui était une agression sexuelle. Et... En fait, j'ai appris au fur et à mesure que c'était très fréquent chez les personnes qui avaient des troubles alimentaires, et notamment du type boulimie, hyperphagie. Et en fait, j'ai trouvé ça assez horrible parce que je me suis rendu compte que toute ma vie, on m'avait reproché quelque chose dont je n'étais pas responsable, dont j'étais victime, qui n'était que la conséquence de quelque chose qu'on m'avait fait. Et que finalement, je ne pouvais rien faire contre ça. Et que j'allais pas perdre du poids si facilement ça, à moins de faire une thérapie, de prendre des médicaments, etc. Et que aucun médecin n'avait pris la peine de considérer qu'on n'était pas gros sans raison. Et qu'il y avait quelque chose à l'origine. Et quand je l'ai compris, ça a été très très dur. Et j'ai limité les rendez-vous chez le médecin pendant un moment, notamment chez la gynéco, puisque là aussi, ça a été difficile de se mettre à nu devant quelqu'un qui dit « vous êtes trop grosse » et justement exposer quelque chose de profondément intime. Enfin, voilà. Je pense qu'on est tous très vulnérables devant le médecin, mais quand on a quand on est gros, c'est vraiment c'est du premier coup d'œil, quoi. On est d'autant plus vulnérable parce qu'on peut pas se cacher, on peut pas le mentir. Et en plus, j'avais toujours très peur en allant chez le médecin que ça devienne un sujet de conversation. Sachant qu'en plus, j'avais peur de pas rentrer dans la chaise, de rester bloquée dans la chaise, ça m'est déjà arrivé. De pas réussir à être sur la table ou quand je viens dire que j'ai mal et que je n'ai qu'une seule angoisse, c'est qu'on me dise « écoutez, perdez du poids ». Et cette vulnérabilité a été aggravée parce que des fois, j'ai fait des examens médicaux qui m'ont demandé beaucoup d'efforts, qui ont été assez difficiles. Et à la fin, on me disait que c'était parce que j'étais trop grosse. Donc, je me mettais complètement, littéralement à nu. Et je n'avais pas de réponse, à part celle que je connaissais déjà par cœur, qui ne faisait qu'augmenter ma haine pour mon corps. Quand je sortais d'un rendez-vous médical, ça aggravait mon anxiété. Ça aggravait donc le trouble alimentaire. Donc, je prenais du poids. Et puis, je revenais au rendez-vous, j'avais pris du poids. Donc, c'était encore pire. Et voilà.
Dans les situations de Lucille et Sybille, je me dis que leur demander de maigrir, un point c'est tout, est peut-être aussi absurde que de demander à une personne âgée de rajeunir pour que sa santé aille mieux. Maigrir n'est pas toujours possible. Maigrir n'est pas toujours bon pour la santé. Jean-Pierre Després, à l'Université Laval au Québec, a démontré à la fin des années 80 que c'est la graisse viscérale, logée à l'intérieur des organes, qui est plus particulièrement associée au risque pour la santé, par rapport à la graisse molle située sous la peau. Donc, on peut avoir un IMC dans la norme, mais avoir du gras viscéral dangereux pour la santé. Et on peut avoir un IMC au-dessus de 30, mais n'avoir que de la graisse molle, qui est moins problématique. En 2018, des chercheurs de l'Université York, au Canada, ont réalisé une étude sur un petit contingent de patients et patientes obèses, sans anomalies métaboliques associées. Ils ne présentaient pas de surrisque de mortalité. Bref, on peut être gros et grosse, et en bonne santé. Et puis, quand on dit à Lucille ou Sybille de perdre du poids, point barre, sans proposer d'accompagnement adapté, quelle solution leur propose-t-on réellement ? L'inefficacité des régimes alimentaires a été démontrée par de nombreuses études. Les chiffres les plus couramment avancés sont 75% de bons résultats dans la première année, suivi de 90% de reprise pondérale à 5 ans. Mais en plus, ces régimes sont des facteurs de troubles alimentaires. La restriction cognitive fait progressivement disparaître les sensations alimentaires, comme l'appétit ou la satiété, et déclenche une perte de contrôle sur le comportement alimentaire. Et la chirurgie bariatrique ? C'est une intervention lourde qui nécessite un suivi à vie. Les patients et patientes ne sont pas toujours bien informés de ces risques et conséquences. Selon un rapport publié en 2016 par la Haute Autorité de Santé, une grande partie des patients et patientes ne bénéficient pas d'une prise en charge préopératoire suffisante pour assurer la réussite de la chirurgie. Autre problème, après une chirurgie bariatrique, un quart des personnes a des tentations suicidaires. Pour en savoir plus, vous pouvez aller sur gros.org, le groupe de réflexion sur l'obésité et le surpoids. C'est une association de thérapeutes qui prennent en charge des personnes en difficulté avec leur poids. Ils et elles s'efforcent de mettre en lumière les présomptions de nombreux et nombreuses soignants et soignantes sur les corps gros et de promouvoir une meilleure connaissance de ce qu'est l'obésité et de ce qu'elle n'est pas. Moi, de mon côté, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre comment repérer et déjouer ce biais grossophobe. Parce que quand il s'exprime chez des soignants et des soignantes, il est tout spécialement destructeur. Ce que dit un ou une médecin devient argument d'autorité. Et cette autorité, on l'imagine reposer sur la science. Si le ou la docteur le dit, c'est que ça a été prouvé. Les biais grossophobes sont des biais très répandus chez les soignants et les soignantes. Une étude menée en 2009 par des chercheurs de l'université de Yale, aux États-Unis, a montré que les professionnels de santé sont la deuxième source de stigmatisation après la famille. La violence se niche juste là où les personnes devraient trouver de la bienveillance, du soutien, du soin. Je suis allée voir le professeur Emmanuel Flamand-Rose à la sortie de la Pitié-Salpêtrière pour marcher un peu avec lui et discuter de tout ça.
Écoute, je viens de voir pour parler un petit peu de tout ça, c'est-à-dire des représentations erronées que les soignants peuvent avoir, voilà, des personnes en situation d'obésité. Toi, qu'est-ce que tu as à dire là-dessus ?
Bah, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'attitudes négatives et de représentations erronées envers les personnes en situation d'obésité chez les soignants. Tu vois, ils peuvent par exemple penser qu'ils sont responsables de leur situation. Soit parce qu'ils sont paresseux, soit parce qu'ils n'ont pas de volonté, soit parce qu'ils n'appliquent pas les préconisations de leur médecin, comme par exemple les consignes diététiques ou les régimes. Et alors le truc qui est assez frappant, en tout cas moi ça m'a vraiment frappé quand on a commencé à réfléchir sur le sujet, c'est à quel point ces biais sont acceptés dans la société en général. Par exemple, tu peux exprimer ouvertement des biais grossophobes, ça passe facilement. Puis alors l'autre truc qui m'a frappé, c'est l'universalité de ces biais chez les soignants. Parce qu'on peut les rencontrer dans tous les corps de métiers de soins. Y compris d'ailleurs chez des soignants qui s'occupent de personnes en situation d'obésité. Et y compris d'ailleurs entre les médecins, entre les soignants. On sait par exemple que les étudiants obèses sont discriminés dans leur notation et qu'à performance égale, ils ont une moins bonne note qu'un étudiant qui ne serait pas en situation d'obésité. Et alors, tout ça, ça a des conséquences assez lourdes sur la santé des patients, parce que, du coup, ils vont renoncer à des consultations de prévention, par exemple, et, par voie de fait, ils vont se retrouver moins bien soignés, à la fois pour l'obésité, mais aussi pour des maladies qui n'ont rien à voir avec le surpoids.
Ce que tu dis là, ça me fait penser à une histoire sur laquelle je suis tombée en faisant des recherches. Une histoire terrible. C'est l'histoire d'une jeune femme américaine qui s'appelle Rebecca Hiles, qui, entre ses 17 et 23 ans, avait des problèmes d'essoufflement, de quinte de tout. Et elle allait voir 3 tonnes de médecins qui, à chaque fois, la renvoyaient à son surpoids. Donc on lui disait, écoutez, perdez du poids, madame. En fait, il s'est trouvé qu'elle avait un cancer du poumon et qu'il a fallu lui ôter complètement le poumon gauche. Donc effectivement... moi, cette histoire m'a marqué, hein, parce que là, c'est une conséquence gravissime, la grossophobie. Donc du coup, comment est-ce qu'on peut faire pour que les futurs soignants et soignantes, et ceux qui soignent déjà, n'aient pas ce biais grossophobe, en prennent conscience?
Alors, je voudrais te parler d'une initiative que j'aime bien, qui existe par exemple à l'Université de Lille ou de Rouen. C'est une expérience de simulation au cours de laquelle des soignants peuvent expérimenter une partie du vécu physique et psychologique d'une personne de 200 kg en portant une combinaison lourde et volumineuse. Et de cette façon, ils peuvent se rendre compte à quel point c'est difficile de faire ses lacets ou d'observer une partie de son corps. Ou par exemple, sentir à quel point on peut être essoufflé à cause du poids en marchant. Ou quelle est la difficulté de s'asseoir dans un fauteuil avec des accoudoirs. Il y a aussi, dans cette expérience, le fait de sentir le regard, ce regard que reçoivent en permanence les personnes en situation d'obésité.
Là, on est arrivé devant chez Emmanuel, ce qui m'a obligé à arrêter de le suivre dans la rue avec mon micro. Quelques minutes plus tard, il m'a envoyé un message. Il a quelqu'un à me présenter.
Alors, je m'appelle Christine Poitou-Berner. Je suis professeure de nutrition à Sorbonne Université et je m'occupe dans la pratique clinique de personnes qui sont en obésité, en particulier obésité sévère. À l'hôpital, il y a plein de situations où on peut avoir une attitude négative. Par exemple, des équipements qui ne sont pas adaptés. Il y a en plus les attitudes négatives des soignants qui vont, par exemple, avoir des remarques négatives. Et donc, tout ça va faire que ça va renforcer l'expérience de discrimination des personnes en obésité. Et ça a un impact, ça a été bien étudié, ça a un impact sur l'estime de soi, sur l'engagement des personnes en obésité dans leurs soins, par exemple, l'adhésion au conseil diététique qu'on va leur donner ou au conseil d'activité physique qu'on va leur donner. Ça va induire également des attitudes d'évitement des personnes en obésité, par exemple les femmes qui ont, au cours de leur vie, subi des réflexions, des attitudes discriminatoires dans le soin, vont éviter d'aller à la consultation de gynécologie. Tous les ans, on diagnostique des cancers, par exemple, de l'utérus à des stades avancés parce que les femmes ne sont pas allées consulter leur gynécologue depuis plusieurs années à cause, justement, de ce type d'attitude, de discrimination. La pierre angulaire de la prise en charge des personnes en obésité, c'est l'activité physique, l'augmentation de l'activité physique ou la remise à l'activité physique. On va leur dire, ben voilà, il faut que vous bougiez plus, il faut que vous vous inscriviez dans une salle de sport, c'est facile, il suffit de bouger pour perdre du poids. Or, si notre conseil est seulement limité à ça, en fait, on va les remettre dans une situation potentielle de discrimination. Et c'est là tout le travail d'essayer de trouver finalement des réseaux, des prises en charge qui vont être des prises en charge d'activités physiques adaptées, où on sait que la personne va être accueillie avec son problème de poids sans la mettre dans une situation discriminatoire. Des équipements adaptés, des conseils adaptés, avec une progression adaptée à sa situation d'obésité. Et là, on va pouvoir effectivement gagner sur le plan de l'accès aux soins et d'une prise en charge optimale. C'est là la perte de chance, en fait, parce que si on a juste des conseils qui remettent les personnes dans un cercle vicieux, dans une spirale de discrimination, on va en fait aggraver sa situation, aggraver sa mésestime de soi. Alors là, on parle de l'activité physique, mais ça a été bien montré également sur les troubles du comportement alimentaire, où les attitudes discriminatoires augmentent aussi les troubles du comportement alimentaire.
Pour permettre aux étudiants de santé de prendre conscience de leur biais grossophobe, Christine Poitou-Bernard organise des focus groupes. La première heure, elle propose aux étudiants d'exprimer leurs stéréotypes et préjugés concernant les personnes corpulentes. Et la deuxième heure, des patients et des patientes en situation d'obésité viennent témoigner et répondre à leurs questions. Une façon de passer des préjugés à l'écoute et à l'empathie. Il y a aussi de jeunes soignants et soignantes qui font du chemin dans leur coin au fil des stages et qui entament une révolution individuelle. Christine Poitou-Bernard m'a mise en relation avec l'une d'entre elles.
Donc, je suis Clémentine, je suis interne en dernière année, spécialité endocrinologie, diabétologie et maladies métaboliques. Ce que j'avais comme préjugé, c'est... En fait, je pense que c'est les préjugés que beaucoup de gens ont sur l'obésité. C'est quand on regarde ce qu'il y a dans le panier de courses de la personne obèse devant nous. C'est probablement parce qu'ils mangent pas comme moi, parce qu'ils ont pas une bonne éducation alimentaire... Pour moi, l'obésité, c'était vraiment quelque chose des classes... C'est très violent, ce que je vais dire, hein. Mais des classes sociales inférieures. Moi, je suis issue d'un milieu assez aisé. Et donc, je me disais, bah voilà, l'obésité, c'est le problème de ceux qui n'ont pas assez d'argent pour s'acheter de la nourriture de qualité et le problème de ceux qui n'ont pas eu l'éducation, qui n'ont pas la culture, qui ne savent pas ce que c'est un glucide, qui ne savent pas... Donc, pour moi, ça ne pouvait pas toucher des classes sociales aisées. C'est vrai que c'est violent, que c'est des paroles qui peuvent blesser, mais je pense qu'en même temps, c'est vraiment comme ça que je voyais les choses, et je pense que c'est comme ça que, j'allais dire étudiant en médecine, mais non, mais que beaucoup de médecins voient les choses, en fait, c'est horrible, je voyais pas du tout le fait qu'il pouvait y avoir différentes origines, différentes formes d'obésité, différentes complications. On n'arrive pas à un IMC 50 juste parce qu'on fait pas attention ou parce qu'on n'est pas éduqué, en fait, c'est toujours des gens qui ont quelque chose derrière, donc soit ils ont vraiment une pathologie somatique, type une pathologie génétique, ou d'autres anomalies qui vont conduire ils ont tout le temps faim ou enfin voilà quelque chose où vraiment ils ont pas le choix de manger, en fait personne ne pourrait faire face à ça, personne ne pourrait contrôler ça. Et puis après il y a des patients qui ont pas forcément ça mais qui ont des vécus psychologiques qui sont très 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 difficiles Et c'est la seule solution qu'ils ont, en fait, pour faire face, face à ce qu'ils ont vécu. Et oui, qu'en fait, on n'arrive pas à 16e. C'est là juste parce que juste parce qu'on se relâche, parce qu'on ne connaît rien, parce qu'on mange devant des chips devant la télé, quoi. Que ça, c'était vraiment une image très péjorative et très erronée, que c'est des gens qui sont en grande souffrance, en fait.
Moi, je pense que les meilleures clés, elles m'ont été données par l'intervention d'une patiente qui était représentante d'une association de patients obèses qui était venue dans le service et, en fait, qui nous avait dit « on sait que vous êtes mal à l'aise pour nous examiner, on sait que l'examen clinique est difficile pour vous ». C'est pas la peine de vous en cacher. Vous pouvez nous demander de l'aide. Vous pouvez dire, est-ce que vous pouvez soulever tel pli? Est-ce que vous pouvez m'aider à soulever la jambe? Moi, je pense que ça m'a beaucoup aidée parce que maintenant, pour examiner des patients très obèses, je suis beaucoup plus à l'aise. Et parce que je leur demande, je leur dis, je vais regarder sous le tablier s'il n'y a pas une petite mycose. Est-ce que vous pouvez m'aider à soulever? Et je pense que les patients le prennent bien, en fait.
J'ai envie de conclure en m'adressant à celles et ceux d'entre vous qui vont devenir soignants et soignantes. J'avais envie de faire un genre de récap des choses à faire ou à ne pas faire quand on prend en soin des personnes en situation d'obésité. Mais les personnes concernées, le collectif Gras Politique par exemple, le font beaucoup mieux que moi. Les médecins aussi, comme Baptiste Beaulieu ou Martin Vinclair. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que quand on se retrouve face à une personne dont le corps n'est pas dans la norme dominante, corps gros, corps non blanc, corps trans, corps non valide. On est sans doute devant quelqu'un qui s'en est pris plein la gueule à l'école, dans sa famille, dans la rue, au boulot. Si cette personne va mal, est-ce forcément à cause de son corps? Ou est-ce aussi, voire surtout, le regard que la société pose sur son corps qui lui fait violence au quotidien? Dans nos cheminements personnels, et spécialement dans les cheminements professionnels en tant que futurs soignants et soignantes, il peut être intéressant de reconnaître qu'on a intégré cette vision dominante, discriminante des corps hors normes. Alors, on n'en est pas responsable, on baigne là-dedans. Si je reprends l'exemple de la grossophobie, l'image que l'on donne des personnes grosses dans les films et les séries est quasi tout le temps catastrophique. L'industrie du divertissement entretient ce stéréotype de la personne inactive, gloutonne, forcément pas aimable, repoussoir, faire valoir. Et comme on baigne dans cette vision discriminante, on développe des biais de représentation, c'est-à-dire des erreurs constantes de jugement vis-à-vis d'un groupe de personnes. Si, systématiquement, lorsqu'on est confronté à un certain type de patient-patiente, on le ou la traite inconsciemment de façon différente des autres, il s'agit d'un biais de représentation. Et ces biais de représentation, il est prouvé qu'ils sont source d'erreurs médicales. Alors, si je crois qu'on n'est pas responsable des biais qui nous traversent, en revanche, il me semble qu'on est responsable d'évoluer humainement. Et quand on est professionnel de santé, pour pouvoir les prendre en soin de notre mieux, sans risquer de créer de rupture d'égalité. Je ne peux pas insister assez sur ceci. Des biais racistes, sexistes, homophobes, grossophobes, on en a tous et toutes. Même quand on est soi-même racisé, femme, gay, obèse. L'important, c'est de les repérer, chaque fois qu'ils émergent dans nos têtes, de les noter, de réussir à écouter quand on nous les fait remarquer, plutôt que de passer en mode défensif. Il existe même un questionnaire créé par l'université de Harvard qui permet de détecter ces biais cognitifs. Vous retrouverez les liens sur la page internet de l'épisode. Une fois qu'on s'est rendu compte qu'on a une vision stéréotypée, qu'on a commencé à repérer ces biais, un grand bout de chemin est déjà fait. Après, il suffit de s'intéresser aux personnes concernées. Pour avancer, sans même s'en rendre compte, au quotidien, moi, ce que je fais, c'est suivre sur les réseaux sociaux des personnes engagées qui se font les porte-parole des communautés trans, racisées, non-valides, grosses, et qui m'éduquent avec patience sur les défis qu'elles rencontrent. Pour moi, c'est des ressources précieuses et gratuites pour me sensibiliser sur les difficultés, le choix des mots, etc. Et puis, tout spécialement pour les futurs soignants et soignantes, quand vous vous retrouvez face à une personne dont le corps sort de la norme, moi j'ai l'impression que vraiment vous avez le droit de ne pas savoir quoi faire, de ne pas savoir quoi dire, et dans ce cas-là, de simplement poser des questions. Demander, est-ce que vous souhaitez discuter de quelque chose en particulier? Est-ce qu'il y a des sujets que vous ne souhaitez pas aborder? Comment souhaitez-vous que je vous genre, que je vous appelle? Moi, de mon expérience de patiente, je suis vraiment convaincue qu'on ne peut pas trop écouter, ça n'existe pas. Je pense qu'il n'y a pas de prise en soin des gens qui soient trop individuels. T'en penses quoi, toi, Emmanuel ?
Oui, je suis d'accord. Il faut avoir des objectifs humbles. Il faut que
la personne qui rentre en consultation, elle ressorte un petit peu mieux qu'elle est entrée. Qu'elle reparte avec quelque chose, ne serait-ce qu'un petit truc. Et puis, je pense qu'il faut annoncer d'emblée qu'on va dire ou faire des choses qui sont inappropriées, qui sont pas tout à fait adaptées, et qu'il faudra pas hésiter à le signaler. Et ça, c'est un truc que je fais à ma première consultation. Je leur dis, probablement que je vais dire ou faire quelque chose qui ne conviendra pas, qui ne vous conviendra pas, et il ne faudra pas hésiter à le signaler.
Allez, je laisse le mot de la fin à Sybille.
Avec un médecin que je verrai pour la première fois, peut-être poser la question directement, est-ce que vous souhaitez parler de la question de votre poids ? Vraiment, je pense que le plus important, c'est de ne pas imposer cette question comme un sujet obligatoire. Je pense que quand on est médecin aussi, il ne faut pas oublier que chaque corps, finalement, a peut-être ses bons côtés. Tout ce qui est lié au poids n'est pas une souffrance. En fait, je crois que moi, j'apprécie pas mal le fait d'être grosse, finalement, parce que j'ai l'impression d'avoir bien les pieds sur terre. Je me sens bien lourde. J'ai l'impression qu'on ne peut pas me bousculer facilement. Voilà, je suis forte, littéralement.
Si vous avez envie de réagir, que vous soyez patient, patiente ou futur professionnel de santé, écrivez-nous sur leserment-d'Augusta@binge.audio. Le Serment d'Augusta est un podcast de Binge Audio, un hors-série Programme B en partenariat avec la Faculté de médecine Sorbonne Université, écrit par Olympe Degé et Emmanuel Flamand-Rose, avec la participation de Rosaine Le Saint, réalisé par Elisa Grenet et produit par Anaïs Daïka. En supervision, David Carzon, directeur de la rédaction de Binge Audio.